On a chanté qu'il est merveilleux dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait. Et après la période de Noël, je ne sais pas comment vous vivez les périodes de Noël. Moi, je la vis diversement, suivant les sentiments qui sont véhiculés ou les paroles qui sont prononcées. Parfois, je trouve ça un peu sucré. Et j'ai un texte qui m'a fait du bien, nous a fait du bien, à nouveau, où Jésus démarre son travail sur la terre. Et puis on arrive dans la ville de Nazareth, où il arrive à la synagogue le jour du sabbat. Nazareth, c'est la ville d'où il vient, comme il en avait l'habitude. Et ce jour-là, il se leva pour faire la lecture biblique. Et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Et j'aime cette façon dont Jésus annonce le sens de sa venue sur terre, dont il rappelle ce que les prophètes avaient déjà annoncé, parce que Jésus annonce une bonne nouvelle. Et comme l'avaient déjà dit les prophètes, c'est une bonne nouvelle qui est globale, qui est totale, qui est intégrale. Et je trouve que nous avons tendance à oublier cette globalité de l'Évangile. Nous étions avec Béatrice à un congrès de jeunes avant Nouvel An en Allemagne, qui rassemblait 3000 jeunes venus de toute l'Europe et qui se posaient la question « Comment transformer le monde en mission ?» C'était le congrès Mission Net. Et puis un des orateurs, Joël Edwards, qui est responsable du défi Miché, rappelait aussi qu'on a souvent découpé cette bonne nouvelle en petits morceaux, qu'on a peut-être parfois réduit l'Évangile à une vie religieuse. Pire encore, l'Église s'est peut-être disputée, se dispute encore entre ceux qui considèrent que notre mission, c'est uniquement la parole, l'évangélisation, la proclamation, l'appel à la repentance, et puis qui s'est disputé avec d'autres qui considèrent que l'Évangile, ça implique aussi un service du prochain, du frère, de la sœur. Et puis on a fait une fracture entre l'évangélisation et puis l'action sociale, entre l'Évangile qui touche notre être intérieur, le cœur, et puis l'Évangile qui vient guérir l'extérieur. Et puis on est tombé dans deux excès. On peut tomber dans deux excès. La première, c'est annoncer une parole sans se préoccuper des besoins qu'ont les personnes qu'on rencontre, des besoins qui ont fait pleurer Jésus. Et puis l'autre excès, c'est peut-être qu'on peut secourir par des actions sociales sans annoncer le Christ. Et Jésus est venu montrer par son exemple qu'il se préoccupait de la personne en entier. Il est venu annoncer et mettre en pratique un évangile qui apporte une délivrance aux opprimés. Et c'est ce Jésus-là que j'aime redécouvrir en parcourant les évangiles. C'est ce Jésus-là qu'on est appelé à imiter et à suivre. Je reprends un texte qui est aussi au tout début du ministère de Jésus dans un autre évangile. Il est parallèle à celui qu'on a lu, puisqu'il se passe au même moment, où il nous dit, il nous a dit que Jésus en Galilée proclamait la bonne nouvelle de Dieu, et il disait quoi ? Il disait « Le temps accompli est accompli et le règne de Dieu s'est approché ». C'est la version la nouvelle version de la Bible seconde. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. Jésus est venu pour un règne nouveau qui, avec lui, s'est approché. Et d'ailleurs, la suite du chapitre 1 de l'évangile de Marc, c'est toute une série d'actions concrètes que Jésus fait, en particulier pour ceux qui sont à Capernaum ce jour-là. Une autre confirmation du type d'évangile que Jésus est venu apporter, c'est, on la trouve quand Jean-Baptiste qui attendait le Messie, il était en prison, et il envoie ses disciples demander à Jésus « Es-tu celui qui devait venir ?» Ou bien devons-nous en attendre un autre ? Et c'est intéressant de regarder ce que répond Jésus. Or, au moment où ils arrivaient, Jésus guérit plusieurs personnes de diverses maladies et infirmités. Il délivra des gens qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais et rendit la vue à plusieurs aveugles. Il répondit alors aux envoyés, retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous avez vu et entendu. Il y a les deux. Les aveugles voient, les paralysés marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus est venu annoncer un évangile qui est total, des paroles qui restaurent, qui libèrent, mais il est aussi venu pour qu'une réalité change. Et Jésus, lorsqu'il rend la vie, lorsqu'il libère, lorsqu'il guérit un enfant par exemple, il y a le miracle, mais il y a aussi tout ce que ça implique. Lorsqu'un enfant est guéri, c'était aussi la sécurité sociale qui était rendue à ses parents, dans une époque où c'est les enfants qui prenaient soin de leurs parents, c'était la retraite. Lorsque Jésus guérit un lépreux, il guérit un lépreux de sa maladie, mais en faisant cela, il lui redonne aussi une place dans la société, à lui qui était peut-être forgeron, qui avait un métier, et qui, un jour, s'est trouvé coupé de ce qui faisait sa vie. S'est trouvé coupé de la possibilité de travailler. C'est ça qu'il lui redonne en le guérissant. Il lui redonne le droit de fréquenter à nouveau sa famille, ses amis, alors qu'il devait se tenir à l'écart de tout le monde. Jésus est venu pour réparer, redonner une place, redonner une dignité aux hommes qui l'ont perdu. Il réintègre dans la société. Et cette façon de voir l'évangile et la mission, c'est quelque chose qui conduit aussi à une lecture renouvelée du passage bien connu de l'ordre missionnaire que Jésus a donné à ses disciples. Vous connaissez ce passage où Jésus parle à ses disciples et leur dit « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Bâtis les zélés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Jésus nous rappelle ici que faire des disciples, c'est pas uniquement faire des convertis, mais c'est ensemble apprendre à obéir, à imiter tout ce que Jésus a prescrit, tout ce qu'il a fait. Y compris dans cette façon d'apporter un évangile qui est total, qui est une parole, que Dieu sauve, que Dieu rencontre l'homme, mais qui est aussi un signe que le règne de Dieu s'approche. Voilà un petit peu le cadre général de l'action de Jésus, dans laquelle il nous invite à avancer. Et puis j'aimerais maintenant, pour la deuxième partie du message, juste détailler un aspect qui nous concerne aussi. Et cet aspect, il part du constat que la bonne nouvelle, en particulier, est annoncée aux pauvres. Dieu prête une attention particulière aux pauvres. Jésus prête une attention particulière aux pauvres. Et je vous lis un extrait court d'un texte qui a été écrit par des personnes qui sont engagées dans le défi Miché et qui réfléchissent à cette question de la pauvreté. Et ils disent ceci: nous affirmons que la pauvreté involontaire est une offense à la bonté de Dieu. La Bible la relie à la faiblesse, car les pauvres ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. L'appel que Dieu lance aux dirigeants est d'utiliser leur pouvoir pour défendre les pauvres et non pour les exploiter. L'Église doit se tenir avec Dieu et les pauvres contre l'injustice, souffrir avec eux et appeler les dirigeants à remplir le rôle que Dieu leur a fixé. La pauvreté est liée à la faiblesse, au fait de ne pas pouvoir se protéger soi-même. La pauvreté préoccupe Dieu depuis qu'il nous a créés à son image, pour que, ensemble, les hommes puissent profiter collectivement de la terre qu'il a mise à la disposition de l'homme, qui, parce que Dieu est bon, produit tout ce dont l'homme a besoin. Cette terre et ce fonctionnement qu'avec la chute, l'entrée du péché, cette bonté de Dieu a commencé à être pervertie par l'homme. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a des mécanismes qui mènent à la pauvreté et peut-être qui nous concernent aussi personnellement. Et je voudrais vous montrer en quoi la Bible nous dit que ça nous concerne, en commençant avec ce qu'on trouve dans les 10 commandements. Les 10 commandements, je ne lis pas tout, mais les versets 8 à 11 nous appellent à avoir un jour de repos, le jour du sabbat. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec la pauvreté? Pour l'instant, vous ne voyez pas encore. En tout cas, 6 jours de travail, un jour de repos. Il y a un rythme où Dieu dit à un moment, ça suffit de travailler. Il y a assez. Pas besoin d'aller en chercher plus. Il y a un moment où ça suffit. Premier état d'esprit que Dieu introduit dans ce texte. Et puis le deuxième, j'y reviendrai, mais qui commence à être une antidote à des mécanismes de pauvreté. C'est: tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartienne. Dieu nous parle ici de la convoitise. Et d'un jour de repos. Ça nous concerne, c'est adressé à l'homme. Et Dieu a décliné ses idées dans les conseils qu'il a donnés à son peuple pour fonctionner ensemble. Et c'est assez passionnant de relire Lévitique, le chapitre 25. Alors, on ne va pas tout relire. C'est pour ça que j'ai mis le rétroprojecteur. C'est pour qu'on ait les textes un petit peu sous les yeux. Les versets 1 à 7 de Lévitique 25, ils ne sont pas ici. C'est le sabbat appliqué à la terre. La jachère, tous les 7 ans. Tous les 7 ans, pendant 6 ans, on sème. La 7e année, on ne sème pas. On laisse reposer la terre. On ne sait pas si le peuple d'Israël l'a appliqué à la lettre pour l'ensemble des terres ou s'ils ont fait une rotation. En tout cas, c'est ce que Dieu demandait. Et il disait même que la sixième année, il y aurait une récolte qui suffirait pour la septième, la huitième, jusqu'à la récolte dans la neuvième. Ici, Dieu, encore une fois, comme le même mécanisme que pour le sabbat, appelle le peuple à se contenter de ce que Dieu lui accorde. Appelle le peuple à compter sur lui et pas sur ses propres capacités d'accumulation. Et puis, il y a un deuxième mécanisme que Dieu introduit qui est assez révolutionnaire. Et c'est les versets suivants. C'est ce qu'on appelle le jubilé. Vous compterez 7 années de repos, soit 7 fois 7 ans, c'est-à-dire une période de 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations, vous ferez retentir le son du cor à travers tout le pays. Vous déclarerez année sainte, cette 50e année, et dans tout le pays, vous proclamerez la libération de tous ses habitants. Ce sera pour vous l'année du jubilé. Chacun retrouvera la possession de sa terre et chacun retournera dans sa famille. La 50e année sera donc pour vous l'année du jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les champs auront produit eux-mêmes, d'eux-mêmes, durant cette année, et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Car c'est l'année du jubilé, vous la tiendrez pour sainte, vous mangerez ce qui aura poussé dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si donc vous vendez une propriété à votre compatriote, ou si vous en achetez une de lui, qu'aucun de vous ne laisse son compatriote. Vous fixerez le prix d'achat ou de vente d'une terre en tenant compte du nombre d'années écoulées depuis le dernier jubilé, et donc du nombre d'années de récolte jusqu'au prochain jubilé. Selon qu'il reste plus ou moins d'années, le prix d'achat sera élevé ou faible, vous voyez, c'est détaillé, car en fait, ce qui est vendu, c'est un certain nombre de récoltes. Que nul de vous ne laisse son prochain, mais montrez que vous révérez votre Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. On a ici un mécanisme que Dieu demande à son peuple d'observer. Chacun est propriétaire de sa terre, et puis les aléas de la vie font que certains gagnent, d'autres perdent. Peut-être quand certains perdent, ils sont contraints de vendre leur terre ou de travailler pour un autre. Et Dieu met en place un mécanisme où ce n'est pas définitif, où les écarts ne vont pas s'accroître tout le temps, ceux qui gagnent ne vont pas toujours gagner, mais on remet les choses à zéro, une fois tous les 50 ans, et on a quelque chose, une aventure qui est collective, et qui tient compte les uns des autres, du bien collectif qui se met en place, qui est mise en place par Dieu. Un mécanisme, vous voyez aussi, hein, lorsqu'on fixe les prix, c'est en fonction de la distance qui nous sépare du jubilé, donc les choses sont faites de façon assez juste. Et il y a même d'autres dispositions qui sont mises, je vais passer là-dessus. C'est le droit de rachat. Pour compléter cette disposition de tous les 50 ans, on remet à zéro. Dieu met aussi en place un droit de rachat, où celui qui a perdu, qui a dû vendre sa terre, si ça va mieux pour lui, qu'il retrouve les moyens de racheter sa terre, ou bien si un parent peut l'aider, mais il a le droit de le faire, et puis on se doit de lui redonner sa propriété. Voilà un mécanisme que Dieu a mis en place et qui limite un petit peu l'accumulation. Pourquoi je suis passé par là? Parce que je voulais vous montrer le lien entre ce que Dieu nous appelle à faire à titre individuel dans les 10 commandements, puisqu'il avait essayé de mettre en place dans le peuple d'Israël. Est-ce qu'ils l'ont toujours vécu comme ça? Nous savons que non. Mais en tout cas, ça existait. Et c'était l'intention de Dieu. Je regarde juste où j'en suis. Voilà. dernière chose que Dieu dit dans Lévitique 25, c'est l'attention aux pauvres. Si ton prochain qui vit près de toi s'appauvrit et tombe dans la misère, tu lui viendras en aide, même s'il est étranger ou immigré, afin qu'il survive à côté de toi. Parce que tu révères ton Dieu, tu ne recevras de sa part ni intérêt ni profit pour que ton prochain puisse vivre à côté de toi. Si tu lui prêtes de l'argent, tu n'en exigeras pas d'intérêt. Et si tu lui donnes de tes vivres, tu n'en tireras pas de profit. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, afin d'être votre Dieu. Venir en aide à celui qui est proche, même s'il est étranger, pas d'intérêt. Voilà ce que demande Dieu. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est quelque chose de pratique. Ça a des conséquences pratiques pour nous aussi, qui sommes au milieu d'une société qui fonctionne, en règle générale, très loin de ce que Dieu aurait souhaité. Certains disent qu'il y a eu deux choses fondamentales dans notre façon de fonctionner aujourd'hui, qui a changé ce que Dieu voulait à l'origine, en tout cas pour son peuple. Et puis peut-être qu'on était obligé de changer, parce que c'était comme ça. Le premier élément, c'est la propriété privée de la terre. On a le droit de posséder quelque chose. Et puis la deuxième chose, c'est la monnaie qui est devenue une valeur d'échange. Avant, on s'échangeait des choses. On ne regrette pas ce temps-là. Il y avait plein d'autres problèmes. Mais pour dire qu'à partir de ce moment-là, l'homme a pu souhaiter acquérir toujours plus de terre dans sa propriété privée, ou bien la monnaie, qui était quelque chose de pratique pour échanger des choses, a pu devenir un objet de recherche, d'accumulation. On peut chercher à accumuler l'argent pour l'argent. L'argent qui a rendu plus fort celui qui le possède plutôt que celui qui produit quelque chose qu'on peut accumuler sans limite. Et puis, les personnes qui ont réfléchi à ça disent que ça n'a pas seulement changé notre société, mais ça a aussi changé le cœur de l'homme. Ça a changé sa pensée, ses sentiments, son comportement, son âme. Et puis que ce qui a institutionnalisé un petit peu la possibilité d'accumuler sans limite, c'est d'avoir introduit les intérêts dans la façon de prêter de l'argent. Et on remarque que Dieu demande de ne pas prêter avec des intérêts. L'argent est devenu plutôt qu'un moyen, c'est devenu un objectif, une fin. Et puis c'est l'avidité de l'homme qui peut alors, on n'est pas tous, tout le monde heureusement ne le fait pas, être sans frein. Et qui peut avoir des conséquences sur l'oppression des faibles, créer de la pauvreté. Vous savez, on était 2 années au Laos avec Béatrice et nos 3 enfants. Au Laos où les paysans vivent encore bien plus simplement que chez nous. Et il y a des mécanismes d'avidité qui sont terribles. Je prends un exemple, un paysan qui cultive son terrain de riz, qui en tire la subsistance pour sa famille. On vient lui dire, tu devrais planter du caoutchouc. Des arbres qui font du caoutchouc, ça rapporte, tu pourras gagner de l'argent, tu pourras envoyer tes enfants à l'école et puis t'acheter ce dont tu as besoin. Alors le paysan est attiré par cette possibilité réelle de gagner mieux sa vie et il se met à planter du caoutchouc. Donc il ne plante plus de riz parce qu'il n'a pas trop de terrain pour faire les deux à la fois. Et c'est pas grave, puisqu'il va gagner de l'argent qui va lui permettre d'acheter du riz. Vient le moment des récoltes du caoutchouc, ça se passe bien une année, ça marche. Et puis un jour, celui qui achète le caoutchouc lui dit, écoute, cher ami, je suis bien désolé, mais le prix, c'est, je ne peux plus donner ça. Il y a eu une chute des cours, je ne peux plus vendre, et je ne peux plus t'acheter le prix que je t'avais. Et donc le paysan se retrouve avec son revenu qui disparaît. Il a plus, ce qui a disparu aussi, c'est sa possibilité d'acheter à manger, puisqu'il n'a plus de riz, il devait compter sur ses revenus du caoutchouc pour se nourrir. Et du coup, il est acculé. Et là, dans sa grande bonté, l'acheteur lui dit, mais écoute, si tu es d'accord, je peux t'acheter ta terre. Et tu en auras un prix qui te permettra de vivre, et puis je pourrai te donner du travail, tu pourras même cultiver le caoutchouc sur la terre que tu avais plantée, et tu pourras travailler pour moi. Et le paysan n'a pas d'autre choix que d'accepter. Et c'est comme ça que les terres changent de main. Bien entendu, les cours du caoutchouc remontent juste après, puisque c'est quelque chose qui est global. Mais quand j'ai découvert ce mécanisme, je me suis dit, mais jusqu'où peut aller notre avidité, les mécanismes que nous avons en place, jusqu'à rendre des hommes libres, esclaves sur leur propre terre. Vous savez, les habits qu'on achète sont fabriqués dans des usines textiles où des entrepreneurs parfois plus peu scrupuleux, il n'y a pas que des peu scrupuleux, il y en a aussi des bons, mais rémunèrent les jeunes filles qui travaillent à 30 dollars par mois, donc ça fait à peu près 23-24 euros par mois. Les trois premiers mois, ils ne peuvent pas encore les payer, pourtant elles sont nourries, logées dans les locaux que l'entreprise met à disposition. Elles doivent acheter leur nourriture, leur logement, leur tenue de travail, et puis pendant 3 mois elles n'ont pas de salaire, c'est seulement au bout du 3e mois qu'elles touchent leur premier salaire. Pourquoi on en arrive là? Pourquoi l'avidité n'a pas de limite? Et je crois que la parole de Dieu donne des indices à ceux qui souhaitent influencer la façon dont fonctionnent ces affaires, en tirant peut-être des inspirations d'idées comme le jubilé, comme le prêt sans intérêt, pour que l'avidité ait des limites. Mais elle nous invite aussi personnellement à considérer la façon dont nous vivons. Et c'est en ça aussi que la bonne nouvelle nous concerne et nous implique. On l'a déjà dit, les 10 commandements parlent de notre convoitise. Où en sommes-nous avec notre convoitise? Le Notre Père, la prière que Jésus nous a enseignée, déjà 2 éléments intéressants, elle dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Le Notre Père nous invite à appeler le règne de Dieu que Jésus est venu établir sur la terre comme au ciel. Et puis les éléments pratiques qu'elle nous donne, c'est celui du pardon, mais il y a aussi cette phrase qu'on connaît bien, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le contentement, la dépendance de Dieu, c'est aussi un des appels du Notre Père. C'est aussi un rappel de cet antidote aux mécanismes qui engendrent une violence sociale qu'on est appelé à cultiver dans nos propres cœurs et peut-être influencer autour de nous. Jésus, dans son enseignement du sermon sur la montagne, nous rappelle de ne pas accumuler et entasser. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mites qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mites qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et puis bien sûr, ce verset 24, « Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. L'argent a changé le cœur de l'homme. La parole de Dieu nous invite à ne pas nous laisser changer par ça, mais à suivre les pensées de Dieu. Une dernière chose que j'aimerais partager, c'est... Il n'est pas dans les textes que j'ai mis. Je vous le lis comme ça. C'est dans la parabole, c'est dans Luc 12, versets 15 à 21. C'est toujours Jésus qui parle, où il dit « Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes. Car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Et il raconte alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. Et l'homme se mit à réfléchir, « Que faire ?» se demandait-il. « Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. » Ah, je sais ce que je vais faire, je vais démolir mes greniers pour en construire des plus grands et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrais me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, et la suite est terrible, c'est tu-même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Je ne dis pas ça pour qu'on se fasse peur, mais pour qu'on... se pose peut-être aussi la question du surplus. C'est peut-être une question que nous pose la Bible aussi. Que faisons-nous des surplus que nous avons? La bonne nouvelle est pratique. Jésus est venu instaurer un règne nouveau dans lequel il nous invite à le suivre, à l'imiter. Jésus s'intéresse aux pauvres, à leur protection et soucieux de la faiblesse dans laquelle ils sont exposés. Alors que pouvons-nous faire en tant qu'individus, en tant qu'Église, en tant que personnes qui sont placées dans notre société pour les pauvres, pour qu'ils soient protégés? Et puis que pouvons-nous faire dans notre cœur, dans notre vie personnelle, pour que les mécanismes qui... amène à la pauvreté, ne soit pas dans nos cœurs à nous. C'est l'appel que je veux vous lancer. Et puis en terminant, juste en relisant cet appel de Jésus, allez donc dans le monde entier, faites des disciples, des personnes qui m'imitent parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce qu'ils ont décidé de changer de vie et de vivre autrement, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et sa promesse est, voici, je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur nous inspire, nous accompagne, nous fasse peut-être creuser davantage des idées qui peuvent aller dans le prolongement de... ce que Dieu a prévu pour l'homme. Amen.